en fait, à la fin du mois, je peux pas me payer à manger ou...
C'est pas possible, on a des vies entre nos mains. Débuter à 1 650 €, c'est juste intolérable.
Des infirmiers, mais aussi des médecins, des personnels soignants de toutes catégories qui attendent beaucoup, Pierre, du Ségur de la Santé. Olivier Véran, le pilote, tout à l'heure, à partir de 15h30.
Et nous passerons en revue les tenants et les aboutissants de ce grand projet du ministre de la Santé. Doit-on s'attendre à un grand chamboulement en profondeur ou à une série de réformettes? Nous poserons la question à l'ancien ministre de la Santé, Claude Évin. L'autre question aujourd'hui, ce sont les restaurants. Quand vont-ils enfin rouvrir? Le 2 juin, normalement, en zone verte.
Des restaurants qui ont dû investir pour respecter les gestes barrières, investir dans le plexiglas notamment.
Si on n'est pas en place, on ne sera peut-être pas autorisé à ouvrir. Et si on est contrôlé demain, on peut nous refaire fermer. On ne peut pas travailler. Et en plus, pour pouvoir travailler, il va falloir qu'on investisse encore de l'argent. On est toujours les victimes au final.
Le plexiglas qui se négocie à prix d'or. Reportage à suivre dans la campagne aixoise. Dans ce journal également, un plan de bataille signé Marlène Schiappa contre le harcèlement de rue qui malheureusement revient en force avec le déconfinement. Les soldes, c'est quand? Le patron d'État a une idée.
Moi, je milite pour qu'on dérégule les soldes. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de date cette année. Ne pas se retrouver avec un goulot d'étranglement, avec des gens qui font la queue, qui s'agglutinent dans des magasins à une date donnée.
Et nous inviterons Jacques Cressel, le président de la Fédération du commerce et de la distribution. Et puis enfin... le retour de Mike Tyson sur les rings. Oui, quoi?
Oui, ça me rappelle quelqu'un, dites-moi.
À bientôt 54 ans, la légende de la boxe y croit, mais nous, est-ce qu'on doit y croire aussi? Décryptage en fin de journal. La météo,
j'ai
ma petite
Céline. J'ai cru que c'était
Céline.
Pour la météo.
Oui.
Je suis délicate ça, si, quand même,
est-ce
vous
que
le savez.
Ça s'y prête aussi pour la météo?
Bon, on peut dire que oui, hein, parce que c'est un beau temps qui nous attend. C'est dans la veine de ce qui nous attend cette semaine. Une journée belle, ensoleillée, beaucoup de soleil, des températures qui grimpent. Ça marche bien avec Mike Tyson. On frôlera déjà les 30 degrés cet après-midi du côté de Marseille.
Merci Céline. À tout à l'heure, météo complète juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et c'est donc aujourd'hui, Pierre, que le gouvernement ouvre son Ségur de la Santé.
Ségur pour l'avenue de Ségur, dans le 7e à Paris, siège du ministère de la Santé. Un plan très attendu par l'ensemble des personnels soignants qui, depuis des mois, bien avant la crise du coronavirus, manifestent, protestent, essayent de se faire entendre sur un système totalement archaïque.
Avec à la clé des inégalités sociales et des inégalités de traitement, les infirmières et les infirmiers en France sont tout en bas du tableau de l'OCDE quant à leur salaire.
Oui, du coup, certains prises à la gorge doivent faire des heures sup dans le privé pour pouvoir payer leurs factures. Romain Nequet les a rencontrés.
En fait, à la fin du mois, je peux pas me payer à manger ou... C'est pas possible, on a des vies entre nos mains. Débuter à 1 650 €, c'est juste intolérable.
La nuit, Fabien est infirmier à l'hôpital. Le jour, pour compléter son salaire, il devient formateur dans une école d'infirmiers. Une vingtaine d'heures pour 150 € de plus par mois, en toute discrétion.
J'ai pas demandé du coup d'autorisation spécifique à l'hôpital. C'est le monde à l'envers. On est dans un monde où on doit se cacher et se dire, bon bah voilà, je le fais, mais c'est mon temps perso et je le répète pas à tous mes collègues. Et ça peut m'attirer des problèmes en plus.
Ces problèmes, cela peut être un blâme, voire une mise à pied. Un risque que prend aussi Camille. L'infirmière peine à rembourser ses crédits. Alors durant ses repos, elle travaille dans une clinique. Une pratique illégale pour un agent du service public et dangereuse pour la sécurité des soins, admet la jeune femme.
Ça m'est déjà arrivé personnellement de faire des semaines à rallonge, 10-12 jours à suivre. Si je cumule mes jours dans l'hôpital et la clinique privée où je fais des remplacements. Forcément, ça a des conséquences sur notre fatigue.
Mais Camille serre les dents, ses heures supplémentaires dans le privé lui rapportent 400 € par mois. Et pas question d'arrêter tant que son salaire de base n'aura pas été augmenté.
Reportage de Romain Nequet. Jean-Rémy Boudot, c'est donc tout à l'heure à 15h30 que démarrent ces négociations. Comment est-ce que ça va s'articuler?
Ce seront 2 jours de discussion avec quelques 300 intervenants en visioconférence. Il s'agit de répondre à la promesse d'Emmanuel Macron fin mars. Au plus fort de l'épidémie, le président promet un plan massif d'investissement dans l'hôpital, une revalorisation des carrières. Sur la table de cette concertation, des dossiers particulièrement brûlants pour l'hôpital, rémunération, temps de travail, effectif, organisation des soins, dette. Il faut tout traiter de front si on veut vraiment avancer, plaide un conseiller. On le sait, les soignants, ils réclament plus de moyens, on l'a entendu, les syndicats veulent 300 € par mois. Martin Hirsch, ce matin, le patron de la PHP, parle dans les échos de 15% de hausse. Alors on ne connaît pas encore le montant des revalorisations, mais je peux vous dire que l'exécutif a conscience qu'il faut taper fort. Le ministre sait très bien que si on rajoute 50 balles, ça ne va pas le faire, me confiait ce week-end à son entourage. Sauf que tout n'est pas qu'une question d'argent, comme l'explique expliquait récemment une ministre en privé. On est l'un des pays de l'OCDE qui dépense le plus pour la santé, mais où les gens sont le plus mal payés. Il y a un truc qui cloche. En réalité, donc, l'enjeu de ce Ségur, c'est bien de remettre tout le système à plat.
Mais quand même, Jean-Rémy, c'est le énième plan hôpital ces dernières années. Pourquoi celui-ci devrait finalement marcher mieux que les autres?
Il y a une raison simple, Raphaël, c'est que le gouvernement n'a pas le choix. L'hôpital, il a tenu pendant cette crise du Covid, mais les Français qui étaient sur leur balcon à applaudir à 20h, ils ne supporteraient pas que l'hôpital ne soit pas soutenu. Vous le disiez encore récemment, il y a eu donc des plans, le plan Santé 2022 avec la fin du numerus clausus. Lors des récentes grèves, le gouvernement a repris la dette de l'hôpital. C'est 10 milliards d'euros, c'est énorme, mais concrètement, aucun effet concret. Une ministre le confie ces derniers mois. Le tort qu'on a eu, c'est de ne pas agir assez fort, car l'hôpital était pourtant déjà à bout de nerfs. Il faut donc aller vite, annoncer de l'argent en plus sur les fiches de paye. Ce sera un peu une manière de voir si l'exécutif parvient à tirer les leçons de la crise, à penser l'après-Covid, en s'appuyant notamment sur ce qui est ressorti de positif. Quand les blocages psychologiques, institutionnels, techniques ont sauté, la télémédecine, vous le savez, elle a été multipliée par 5. Au ministère de la Santé, on veut donc s'appuyer sur l'énergie de la crise pour réformer. Réduire la bureaucratie à l'hôpital, c'est notamment l'objectif du ministre Olivier Véran. Ça, c'est une chose dont il a souffert quand il a lui-même dirigé des hôpitaux.
Merci de ces détails très précis, Jean-Rémy Baudot. Nous sommes avec Amine Benyamina. Bonjour. Vous êtes le chef de service psychiatrie addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Paris. Vous co-signez avec 20 autres éminents médecins une tribune dans le Figaro. Qu'est-ce que vous demandez précisément?
Eh bien, vous avez beaucoup dit de choses depuis le début du traitement dans votre édition de cette question. Ben, les choses sont assez simples. On veut d'abord rendre de nouveau l'hôpital attractif. Et pour qu'il soit attractif, il faut pouvoir très clairement, ce qu'on l'écrit, c'est un jargon technique, provoquer un choc de simplification. Nous avons dans les hôpitaux, notamment dans les groupes, les grands groupes hospitaliers, des multiples couches de décisions qui font que finalement le soin passe en second lieu. On a très clairement le besoin et la nécessité, comme ça a été fait pendant cette crise du Covid, la pandémie, la nécessité de rapidement prendre des décisions in situ, revenir à la dimension de la chefferie de service pyramidale des services avec une administration de proximité qui prend des décisions et non pas attendre un certain nombre de reporting, un certain nombre d'arbitrage. D'abord, rendre attractif aussi, vous l'avez dit très clairement, par les conditions de travail, notamment les PNM, c'est-à-dire le personnel non médical, les infirmiers, les aides-soignants et tous les métiers qui tournent autour de la santé et du soin, qui sont des métiers de précarité, notamment dans les grandes villes où il est absolument impossible pour un infirmier ou une infirmière de pouvoir loger, vivre et se déplacer pour pouvoir venir dans les grands centres hospitaliers.
Il y a cette question du traitement des salaires qui est importante, évidemment. Il y a aussi celle de la gouvernance, manifestement, qui fait débat. Là, manifestement, les choses ont plutôt bien marché parce qu'on était en crise, parce qu'on était en pleine pandémie. L'administratif a fonctionné avec le médical. Il faut que ça continue, il faut aller plus loin. Il faut aussi que les patients entrent dans cette gouvernance?
Alors les usagers, les patients, chacun a sa place. La compétence administrative, évidemment, elle est absolument indispensable. On n'a pas demandé à ce que les médecins prennent l'administration, fassent le travail à la place de l'administration. Mais faut-il encore que ce qu'on nous a imposé depuis maintenant des décennies avec comme effet majeur la loi HPST, il faut que le soin soit l'élément qui dicte, en quelque sorte, l'organisation administrative et non pas le contraire. Et c'est toute la philosophie avec laquelle on souhaite aborder ce Ségur, c'est-à-dire arrêter de faire de l'hôpital une entreprise pour qu'elle soit rentable. C'est très exactement le mal par lequel s'est construite toute cette philosophie et tout finalement cette utopie de faire de l'hôpital un lieu de rentabilité. C'est un lieu de soins pour lequel les Français ont compris, et j'espère que l'administration, les décideurs l'ont compris, qu'il fallait investir parce que on a entre les mains de l'hôpital et tout ce qui va autour de l'hôpital, la vie des Français, ça n'a pas de prix.
Vous voulez dire, professeur Benyamina, aussi, parce que sinon tout se casse la gueule, permettez-moi l'expression, que si le soin est bien fait, l'hôpital de toute façon, de facto, sera rentable?
Il ne sera rentable. L'idée, ce n'est pas de dépenser. L'idée, c'est de dépenser intelligemment et d'écouter ce que les experts, c'est-à-dire les soignants sur le terrain, demandent pour pouvoir agir normalement. On est tombé dans ce qu'on appelle une idéologie gestionnaire, ce qui fait que cette manière de gérer prime sur la qualité de soins et sur l'efficacité du soin. Il est tout à fait compatible de gérer intelligemment en repartant de la base, en privilégiant le circuit court, la proximité, tout en maintenant à flot, en quelque sorte, sur le plan budgétaire, l'hôpital. Et là, on n'arrive pas à en but et j'espère qu'on pourra avancer là-dessus.
Message bien reçu. Merci, professeur Benyamina. Merci d'avoir été en direct dans Europe Midi.
Il est midi 10.
Europe 1.
Midi 10, restez avec nous. Pourquoi les plans précédents n'ont pas marché? À quel point l'hôpital est-il blessé? Comment le soigner? On posera la question dans un instant à l'ancien ministre de la Santé, Claude Évin. A tout de suite. Il est midi 12, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Le Ségur de la santé d'Olivier Véran se tiendra donc, Pierre, cet après-midi.
Oui, et les attentes sont grandes. On a vu avec les infirmiers, les infirmières, on vient d'entendre le professeur Benyamina qui demande donc un choc de simplification. Le soin, dit-il, doit guider l'acte administratif. Bonjour Claude Évin.
Oui, bonjour.
Ancien ministre de la Santé, ancien patron de l'ARS. Ce Ségur de la santé, est-ce qu'il était indispensable ou est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien?
Non, je crois qu'il est indispensable d'abord parce que on a bien pris conscience d'une grande difficulté liée au recrutement dans les établissements hospitaliers, hein, qui est liée à l'insuffisance de rémunération, et donc il y a nécessité. Ça, c'était quelque chose que l'on connaissait depuis un moment, mais il y a effectivement, comparativement d'autres pays européens, une faiblesse de rémunération. Donc ça, c'est une urgence et il y a nécessité effectivement d'y apporter des réponses.
Mais est-ce qu'on a besoin d'un Ségur pour ça? Est-ce qu'on peut pas juste, bah tiens, alors, voilà, on va revoir les salaires des infirmiers, des infirmières et des personnes qui sont mal payées, et puis c'est tout?
Oui, mais c'est pas le seul sujet qui nécessite d'être abordé. Hein. Il y a effectivement des questions liées à l'organisation même à l'intérieur de l'hôpital. Et puis il y a surtout l'organisation avec les autres acteurs. Je crois qu'il ne faudrait pas focaliser les réponses à apporter uniquement sur l'hôpital. L'hôpital se situe dans un système de soins dans lequel il y a d'autres acteurs. Hein. Il y a les EHPAD qui ont aussi été au cœur de la crise que nous avons vécue et que nous connaissons encore, qui prennent en charge les personnes âgées ou les personnes handicapées dans d'autres types d'établissements. Et puis, il y a d'autre part la médecine de ville, la médecine ambulatoire.
Mais donc, on a le sentiment aujourd'hui, finalement, que s'il n'y avait pas eu cette crise de la Covid-19, on ne se serait jamais préoccupé de cette question de la santé qui est pourtant majeure.
Parce que les réflexions des infirmiers et des infirmières
étaient les mêmes avant la crise,
on
avant
les a
la pandémie.
Alors,
sur la question des rémunérations, c'est une question que l'on a depuis déjà un certain temps.
Et des moyens.
Alors les moyens, oui, mais les moyens, il faudra les apprécier au regard de l'ensemble des moyens qui sont mis à la disposition du système de santé. Je rappelle quand même que tout ça est financé par les cotisations sociales des salariés, des citoyens, de l'ensemble des travailleurs et la richesse que produit notre pays, et qu'il n'y a pas non plus de baguette magique sur les financements. Mais sur les outils à mettre en place...
C'est pas ce que disent certains observateurs, qui disent que justement, il y a pas mal de choses qui sont un peu sclérosées dans le système hospitalier, qu'il faudrait juste rebrancher quelques câbles, et que comme ça, ça fonctionnerait mieux.
Oui, mais à l'intérieur d'une enveloppe qui est votée chaque année par le Parlement.
Certainement.
Alors c'est évident que rebrancher d'autres câbles est tout à fait nécessaire. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'outils qui sont dans la loi depuis juillet l'année dernière. Il y a une loi qui a été votée, qui est mise en place progressivement. L'articulation entre les différents acteurs, c'est quelque chose que l'on souhaite depuis longtemps. Mmh. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a des corporatistes, c'est vrai qu'il y a des rigidités, c'est vrai qu'il y a des cloisonnements, et c'est tout ça qu'il faut effectivement faire bouger au niveau des territoires.
C'est essentiellement, à mon avis,
dans les territoires qu'il faut mieux organiser les choses.
Est-ce que ça a bougé, de votre point de vue, avec la crise?
Ce qui a bougé, c'est le fait, en effet, que face à l'urgence, il y a eu des coopérations qui sont, par exemple, mises en place entre le secteur public et le secteur privé, des coopérations qui étaient difficiles à envisager auparavant. Il faudra effectivement les maintenir, il faut même les renforcer, parce que nous avons un système hospitalier qui présente des hôpitaux publics et des établissements privés. Et on sait très bien qu'il est nécessaire de mutualiser un certain nombre de moyens, d'établir davantage de coopération. C'est ce genre de situation qui nécessite effectivement d'être renforcée. Il y a beaucoup d'outils qui existent, il faut les faire vivre.
Claude Évin, dernière question, et ça sera une réponse très brève. Vous qui avez été ministre de la Santé, vous qui avez fait face aussi à une crise à votre époque, sur un échelon de 1 à 10, quelle est la chance de réussite de ce Ségur de la Santé?
Écoutez, je ne me permettrai pas un pronostic. Je crois qu'il faut surtout éviter de penser qu'on va avoir la réponse immédiatement dans les deux mois qui viennent, puisque c'est l'échéance.
Donc ça va être long.
Ben, ça va être long parce que notre système, c'est un système qui a énormément de potentialités, mais c'est un système qui, pour le faire bouger, nécessite un certain temps et une volonté politique. Je crois qu'elle existe, cette volonté. Encore faut-il que l'ensemble des acteurs adhèrent à cette volonté.
Merci Monsieur Évin. Merci Claude Évin d'avoir été en direct dans Europe Midi.
Et cette question, vu l'état des lieux, les jeunes qui veulent rejoindre l'hôpital public, le veulent-ils encore, Pierre ?
À la Garde, près de Lyon, rencontre avec les étudiants de l'Institut de formation publique Varois des professions de santé, plongés malgré eux dans cette crise. Ces futurs infirmiers arrivent à la fin de leur formation et doivent désormais s'orienter vers le public ou le privé. Frédéric Michel les a rencontrés.
Cet été, sans diplôme d'infirmière en poche, Aurélie rejoindra pour 5 ans l'établissement public qui a financé sa formation. Un contrat obligatoire et après, son choix de carrière pourrait dépendre des conclusions du Ségur de la Santé.
Justement, ces décisions, est-ce qu'elles vont me permettre de rester dans le public ? Est-ce qu'on sera enfin entendu ? À voir. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a un tel manque de personnel, de moyens. Au final, il faut vivre pour l'hôpital et mettre de côté notre vie privée.
Marie aussi se destine au secteur public et attend de cette consultation de vraies avancées.
Au travers de cette crise sanitaire, on entend énormément les soignants revendiquer leur salaire, leur plan de carrière. Donc c'est vrai que nous aussi, on aimerait, en entrant dans cette profession, être un peu plus considérés.
Depuis une dizaine d'années, c'est plutôt le privé qui attire. Josie Chambon est la directrice de l'Institut de formation publique Varois des professions de santé.
Avant, tout le monde souhaitait aller dans le public. Aujourd'hui, pas du tout. Parce que souvent, les services ne correspondent pas à leurs attentes, à leur idéal de soignant.
Salaire, horaire, moyen matériels et humains, même si cette crise sanitaire a conforté leur vocation, ces futurs personnels de santé ne veulent plus se laisser bercer par des promesses.
Frédéric Michel à la Garde, près de Toulon. Autre secteur impacté pendant la crise du coronavirus, les EHPAD, les professionnels du secteur, seront eux aussi, Raphaël, inclus dans les discussions.
Avec de nouvelles mesures à la clé, Pierre, mais les personnels de ces établissements se sont oubliés. Un peu loin des radars, en particulier les aides-soignantes comme Malika. Elle exerce en Île-de-France depuis plus de 20 ans et selon elle, il y a urgence.
On demande une reconnaissance de la pénibilité du travail, parce que la charge elle est lourde physiquement et psychologiquement, donc ça c'est important. Mais aussi nos salaires, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sous-payés. Alors moi, en moyenne, j'ai quand même presque 25 ans de maison, je suis à 1800 net. Moi, ce que j'attends, c'est que nos conditions de travail s'améliorent. Déjà, on arrive au travail, on est dans une situation de stress. Si on avait les effectifs et que même s'il y avait une ou un arrêt de travail, on arrivera à se débrouiller, mais le problème, c'est qu'on est en effectif réduit. Du coup, si une ou deux personnes ne viennent pas, c'est la catastrophe. Le métier est en train de se dégrader et nos résidents aussi sont... La prise en charge, elle est défaillante. Je pense que moi et mes collègues, on est vraiment fatigués, on est éreintés, on est... Bon, on aime ce métier, mais il faut quand même que ce gouvernement réponde vraiment aux attentes des soignants pour qu'on puisse continuer à vouloir travailler et aimer ce métier.
Malika, aide-soignante en EHPAD avec Jeanne Bergaoui et si Olivier Véran est ministre, vous le savez, c'est qu'il a remplacé en janvier Agnès Buzyn, celle qui a jeté un pavé dans la mare il y a quelques semaines en disant qu'elle était au courant de cette catastrophe qui arrivait avec le coronavirus. Elle est toujours candidate à la mairie de Paris. Et ce matin sur Europe 1, le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, s'est dit convaincu qu'elle était déterminée à porter le projet du parti au deuxième tour des municipales le 28 juin.
Il est midi 20.
Europe 1.
À suivre, une question, pourquoi le coronavirus persiste chez certains patients? Et puis les vôtres de questions, celles que vous posez tous les jours à la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez. À tout de suite. Il est midi 23, à la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. Et si les derniers chiffres officiels semblent confirmer le recul du Covid en France, Pierre, eh bien certains patients n'arrivent malheureusement pas à se défaire de cette maladie.
Oui, deux études ont été lancées en France sur la persistance et la résurgence des symptômes. Des études pour mieux comprendre ce phénomène constaté par les scientifiques que vivent certains malades des semaines après le début des symptômes. Aucun remède, aucune explication à ce phénomène. Aujourd'hui, malades et médecins sont totalement désemparé, Yasmina Katou.
Oui, Geneviève souffre depuis plus de 2 mois maintenant. Pourtant, ses examens médicaux montrent la disparition totale du coronavirus de son organisme. Aucun médecin n'a pu lui apporter de réponse. À 36 ans, Geneviève ne peut plus vivre seule. Sa mère s'occupe d'elle.
Dès que je me mets debout, mon pouls se met à battre à 100, 110, 120. Donc je reste au repos complet, allongée. Et le plus handicapant, c'est vraiment les oppressions thoraciques. Aujourd'hui, ce qui est complètement horrible, c'est de savoir que personne arrive à nous donner des réponses. C'est une vraie descente aux enfers.
Geneviève est loin d'être un cas isolé. Le professeur Gilles Pialou est chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris.
On a quand même plusieurs personnes qui décrivent des fatigues vraiment invalidantes, perte du goût, perte de l'odorat, au-delà du 50e jour. Pour les pistes thérapeutiques, c'est le flou le plus artistique. On apprend encore tous les jours sur cette maladie qui a été vraiment sous-estimée.
En attendant de comprendre cette lente guérison, Geneviève partage son expérience sur les réseaux sociaux avec d'autres malades.
Merci Yasmina Kato. Et tandis qu'à 9700 km de là, à Tokyo, les autorités viennent de lever l'état d'urgence dans tout le Japon.
Midi 25, l'heure de retrouver la spécialiste santé d'Europe 1. Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Raphaël, bonjour Pierre, bonjour à tous.
Clotilde est en Bretagne, elle vous demande si quand on va à la plage, on ne risque pas d'être contaminé, surtout si l'on se baigne. Bref, est-ce qu'il y a un risque dans l'eau de mer ?
Alors, c'est une question qui revient de plus en plus souvent, oui. Puisque de nombreuses plages ont été rouvertes. Et puis, bon, mais bien sûr, il y a l'été qui approche. Hein. Donc, ce qu'on peut dire à ce stade, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, les eaux des littoraux français ne sont pas contaminées. Une étude faite par l'Institut Nantais l'Ifremer, à partir de prélèvements réalisés sur tous les littoraux métropolitains, vient de montrer que non, on ne retrouve pas de traces de SARS-CoV-2 dans l'eau de mer, ni même dans les coquillages. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Néanmoins, il faut quand même rester très prudent vis-à-vis de ces résultats, car ces prélèvements ont été réalisés en période de confinement, entre la mi-avril et la mi-mai. Donc, ces chercheurs continuent leurs analyses, évidemment. Et ça va être intéressant de voir si c'est pareil maintenant que les plages vont être plus fréquentées. D'ailleurs, c'est évident, hein, parce que les baigneurs vont être de plus en plus nombreux. Alors, si le virus circule encore intensément, ça va être périlleux. Rappelons que même dans l'eau, hein, si quelqu'un tousse à moins d'un mètre de vous, eh bien, il y a un risque, évidemment, d'être contaminé. Donc, pour le moment, en tout cas, OK pour les balades, les baignades. Mais attention, la distance entre chacun doit encore rester la règle.
Thibaut a une question pour vous, il a 28 ans, il habite Paris. Petite question pratique, le gel hydroalcoolique fabriqué par mon pharmacien est-il aussi efficace que celui fait de façon industrielle ?
Alors oui, hein, la réponse là, c'est oui, c'est évident. La solution hydroalcoolique fabriquée en officine est tout aussi efficace. Les pharmaciens sont des professionnels de santé, hein, pas des apprentis sourciers. Et pour fabriquer du gel hydroalcoolique, il se base sur la formule qui est validée par l'OMS. Donc vous pouvez évidemment avoir entièrement confiance depuis cette production. En plus, elle est encadrée par la loi française. Alors ensuite, soyez pas surpris quand même parce que votre pharmacien peut vous proposer un gel qui est un peu plus liquide, car en fait on parle de produit hydroalcoolique. Il y a plusieurs formulations possibles, donc vous pouvez acheter du gel, mais le produit fini peut être aussi bien souvent plutôt une solution, donc quelque chose qui a finalement une texture complètement liquide, mais c'est tout aussi efficace bien sûr, l'action virucide est exactement la même.
Donc c'est pas comme pour les cookies? Parce que les cookies non. Du boulanger, ils sont quand même meilleurs que ceux de l'industrie.
Ah, vous n'avez pas goûté les miens, je pense.
Ne mangez pas le gel hydroalcoolique.
Quand est-ce que j'ai les... Faut pas tout mélanger non plus.
Ah non, surtout pas les cookies avec le gel hydroalcoolique.
Bon, 15h sans rendez-vous avec des cookies donc, hein, voilà, Mélanie. Hein, je vous attends. Merci.
Et moi aussi, Mélanie. Il est midi 27.
Europe 1.
Vous restez avec nous. Quelle date d'ouverture pour les restaurants? La profession espère un feu vert dès aujourd'hui, mais il va devoir falloir patienter. Autre débat, cette fois sur les soldes. Nous en parlerons notamment avec Jacques Cressel, le patron de la Fédération du commerce et de la distribution. A tout de suite.
Il est midi 30, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneau et Raphaël Duchemin.
Et aujourd'hui, Pierre, est une date très importante pour les restaurateurs.
Oui, alors, quoique gouvernemental ou incompréhension, en tout cas, beaucoup d'entre eux pensaient en effet qu'aujourd'hui, eh bien, les autorités diraient si les restaurants pouvaient, comme envisagé, rouvrir le 2 juin prochain en zone verte. Carole Ferry, déception, car en fait, cette décision lourde en conséquences diverses ne sera finalement pas présentée aujourd'hui.
Alors effectivement, mais ça se précise, une réunion est prévue ce soir entre le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, et la Direction Générale de la Santé. Les réponses devraient être apportées demain au plus tard. Sur la date du 2 juin, il y a peu de doutes, elle devrait bien être confirmée en zone verte. Ce qu'il faut maintenant, c'est voir quel sera le protocole sanitaire à mettre en place. A priori, la règle des 4 mètres carrés par client a été abandonnée. Les professionnels dénonçaient une distanciation qui ne leur permettait pas d'être rentable. Ça représentait 10 clients maximum dans une salle de 40 mètres carrés. La Direction Générale de la Santé devrait donc accepter 1 mètre de distance entre chaque table ou une vitre pour séparer les tables quand on ne peut pas respecter les 1 mètre. Alors il y a un autre point qui reste à régler, celui des comptoirs de bar. Les professionnels souhaiteraient juste équiper leurs salariés de visières, mais les autorités sanitaires exigent l'installation d'une séparation vitrée entre les barman et leurs clients. Toutes ces précisions devraient donc être apportées demain.
Eh ben, on suit ça attentivement demain avec vous, Carole Ferry. Autre problème que connaissent les restaurants, le prix du matériel pour les gestes barrières. Le plexiglas, désormais utilisé pour les fameuses parois dont vous parliez entre les tables ou entre les clients, eh bien, se revend à prix d'or. C'est un peu le syndrome masque.
Hein. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'a pu constater Nathalie Chevance, qui s'est rendue à Aiguille, dans la campagne aixoise, avec un restaurateur qui a bien envie de pousser son coup de colère. Reportage.
Dans ce restaurant qui accueille en temps normal une quarantaine de clients par service, il n'y a pour le moment que 6 tables complètement isolées. Mais ici, pas de barrière en plexiglas, trop cher. Raymond, qui installe la mort dans l'âme, ces drôles de clôtures, a opté pour un autre matériau, 10 fois moins cher.
C'est du PVC rigide, transparent. On les a fait couper sur mesure et on les a installés depuis 2 jours. Là, oui. Ah, c'est vraiment triste, ça, oui. C'est un confessionnal, en fait. Maintenant, on est obligé de séparer.
Et le budget aurait pu exploser sans la présence d'esprit de Rémi Kessler, patron du restaurant L'Éden, car d'après lui, les fabricants de plexiglas profitent de la situation tant la demande est forte.
Pour un plexi de 1,50 m sur 50 de large, vous pouvez en avoir pour 500 balles. Ah ouais, ça claque. Il y en a déjà 6 en place, là. Il y a de l'opportunisme, et surtout sur les prix qui sont pratiqués sur le marché, que ça soit sur les masques, hein, on l'a vu au début de la crise, hein, c'était la même chose. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour le matériel qu'on va avoir besoin, nous, pour la réouverture. On se dit qu'au final, si on n'est pas en place, on sera peut-être pas autorisé à ouvrir. Et si on est contrôlé demain, on peut nous refaire fermer. On peut pas travailler. Et en plus, pour pouvoir travailler, il va falloir qu'on investisse encore de l'argent. On est toujours les victimes au final.
Et encore, ce restaurateur s'estime chanceux. Lui pourra bénéficier d'une grande terrasse pour récupérer à l'extérieur les clients et espaces perdus à l'intérieur. Aiguille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et si en France, on trépigne, on a attendant de pouvoir rouvrir les restaurants. En Allemagne, Pierre, c'est déjà de l'histoire ancienne.
Presque. Aujourd'hui, c'est la Bavière qui passe à l'acte. Mais dans le Nord et à Berlin, c'est vrai, ça fait en effet 10 jours que l'activité a repris, même si c'est à un rythme très réduit. Reportage d'Hélène Kohl.
Les terrasses sont de nouveau ouvertes au pied de la tour de télévision à Berlin. Mustafa Cemar possède 2 grandes brasseries sur la place. Normalement, il peut faire 700 couverts par soir. Depuis une semaine, il a divisé par 3 le nombre de tables.
Ça ne couvre pas nos coûts fixes, mais même si nous ne gagnons pas d'argent, nous voulons offrir à nos clients le plaisir de sortir. Le premier soir, il y avait beaucoup de clients réguliers, j'étais content. Et puis les distances étaient bien respectées.
Les serveurs sont masqués et gantés. À l'entrée, un appareil distribue du désinfectant et les clients ne touchent pas la carte, ils la consultent et passent commande grâce à leur téléphone portable qui envoie aussi leurs coordonnées sur le site de réservation du restaurant. Si jamais dans les jours suivants un cas de Covid est identifié parmi les personnes présentes, tout le monde sera contacté au plus vite. C'est ainsi que 70 personnes viennent d'être placées en quarantaine après avoir dîné le 15 mai dans une auberge de la côte de la mer du Nord où 11 cas ont été confirmés, dont le patron de l'établissement lui-même. Une enquête a été ouverte pour vérifier si les gestes barrières ont bien été respectés dans ce restaurant. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et pour aller au restaurant au mois de juin, Pierre, il va me falloir une nouvelle robe, des nouvelles chaussures, un nouveau sac, peut-être même une nouvelle paire de lunettes.
Oui. Et alors vous demandez quand est-ce que c'est les soldes, c'est ça?
Eh ben oui, forcément. Ben oui.
C'est une bonne question. Bruno Le Maire s'est encore ce matin dit favorable au report de la période de soldes. Les enseignes ont de toute façon pratiquement tout instauré, un système de vente privée à leurs clients. Le patron d'Etam, Laurent Milchior, a quant à lui une autre idée.
Moi, je milite pour qu'on dérégule les soldes, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de date cette année. Je pense que tous les acteurs économiques doivent jouer le jeu de cette crise sanitaire. Et globalement, on a tout fait pour réduire le nombre de morts et le nombre de malades. Notre responsabilité, c'est de pousser nos consommateurs et nos salariés à ne pas prendre de risques. Je pense que le mieux, ça serait de ne pas avoir de date fixe, comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas en Angleterre, comme c'est le cas en Espagne, pour lisser l'impact des soldes. Le principe même, c'est de ne pas se retrouver avec un goulot d'étranglement avec des gens qui font la queue et qui s'agglutinent dans des magasins à une date donnée. Le 24 juin, du coup, ça me semble assez tôt. Par contre, il faudrait surtout pas le faire en fin d'été. Je sais que les indépendants le demandent. La réalité, c'est qu'ils vont se retrouver avec du stock aussi sur les bras et on vendra pas de shorts, on vendra pas de maillots de bain, on vendra pas de t-shirts estivaux fin août, début septembre.
Le patron d'Etam, Laurent Melchior, avec Mathieu Béliard ce matin sur Europe 1. Bonjour Jacques Ressel.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Patron de la FCD, la Fédération du Commerce et de la Distribution, c'est une bonne ou une mauvaise idée que celle du patron d'Etam?
Écoutez, on peut réfléchir à changer le système. Je pense que les Français sont attachés aux soldes.
que le commerce ressort dans une situation très difficile de ces deux mois et quelques de fermeture de magasins. D'ailleurs, certains magasins n'ont toujours pas rouvert et que les consommateurs sont aujourd'hui très friands de promotion et les soldes, naturellement, sont un élément tout à fait important. Bruno Le Maire, ce matin, a évoqué un report. On peut imaginer effectivement un report, mais vraiment qu'il soit limité. La date du 15 juillet qui était évoquée ce matin nous paraît très tardive, tout simplement parce que aujourd'hui, les consommateurs consomment peu, la reprise est lente, il faut les inciter à consommer pour faire en sorte que l'activité reparte. Il y a 60 milliards d'épargne qui a été mis de côté depuis le début de la crise. Il faut absolument que l'ensemble de l'activité reparte parce que le commerce, c'est le premier secteur économique français.
Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que les Français, pendant la période de confinement, se sont rendus compte qu'il y avait une crise économique et ils ont mis beaucoup d'argent de côté. Le deuxième, c'est que si vous les envoyez en vacances au mois de juillet et qu'on met les soldes au mois de juillet, ils vont pas faire les soldes dans leur boutique habituelle.
Alors, ils vont, d'abord, on ne sait pas exactement ce qui va se passer sur les vacances, mais l'essentiel des vacances va se faire en France. D'ailleurs, 88% des Français passent déjà leurs vacances en France. Hein. Il faut bien se rappeler ça avant même la crise.
Donnez-nous un petit peu d'espoir, Jacques Cressel.
Non, mais ils vont pouvoir acheter des produits un peu partout. La seule chose qu'on dit, c'est que c'est quand même mieux de faire des soldes et d'acheter des produits avant de partir en vacances. Parce que acheter des maillots de bain fin août, c'est pas passionnant. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on respecte des dates qui soient des dates normales. Le 24 juin, c'est sans doute un peu tôt. Nous, on avait dit maximum début juillet, qu'on retarde d'une dizaine de jours, pourquoi pas. Mais il faut faire en sorte de garder cet élément essentiel. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien dans les boutiques, les Français, ils n'ont pas très envie d'acheter. Ils attendent des promotions,
Jacques Cressel, mais alors, on les attend effectivement, ces soldes. Mais néanmoins, il y a déjà des boutiques qui pratiquent des tarifs, hein, moins 30, moins 40. Quand on a l'habitude d'acheter telle ou telle marque, on a déjà reçu plein de messages. Donc c'est une bien manière aussi de faire des soldes.
Exactement, mais c'est bien pour ça qu'il faut faire en sorte que les soldes soient pas trop éloignés de la date normale, parce que sinon, on va voir fleurir, comme c'est souvent le cas, des promotions, des soldes privés, des happy days, tout le vocabulaire. Donc autant avoir un mécanisme clair, net, précis, avec des règles qui s'appliquent.
Merci beaucoup Jacques Cressel d'avoir été en direct dans Europe Midi. Et puis cette dernière minute, le gouvernement allemand et Lufthansa sont parvenus à un accord de principe sur un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros pour éviter la faillite du géant du transport aérien allemand.
Il est midi 39.
Europe 1.
À suivre, le déconfinement qui rime aussi malheureusement avec harcèlement de rue. Il est de retour. Témoignage dans un instant.
Il est midi 42, c'est la suite de votre journal avec Pierre de Villeneau et Raphaël Duchemin.
Et c'est un phénomène, Pierre, dont on se serait bien passé en ce déconfinement. Pourtant, il revient au galop encore plus pervers.
Oui, le harcèlement de rue encore plus pervers car les victimes ont désormais face à elles des agresseurs masqués, impossibles à identifier. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, présente un plan en ce sens aujourd'hui, ce qui n'empêche pas ces agresseurs de revenir. Et ces jours-ci, ils sont très présents, comme l'a constaté Jiane Bergaoui.
Comme pendant deux mois on n'est pas sorti, il n'y a pas eu d'interaction avec les gens, on oublie en fait et on ressort dans la rue après la fin du confinement et en fait ça reprend.
Ça reprend et c'est pire encore. Aujourd'hui les sifflements, les regards appuyés, les commentaires dégradants se font le visage à moitié caché par un masque. Alors pour Charlotte, les harceleurs agissent désormais en toute impunité.
Pas plus tard qu'hier, un mec qui je passe et j'étais en jupe et un petit truc du style comme si on appelait un petit chat. Il y a la petite remarque parce que par principe faut faire chier en fait.
Dès que je sors tous les jours, les remarques « Mademoiselle !»
Lors de ces rares sorties pendant le confinement, Cléophée se sentait plus tranquille dans la rue. Mais depuis deux semaines, le soir en particulier, la jeune fille adapte ses itinéraires, évite les groupes d'hommes, plus nerveux selon elle que d'habitude.
Le fait qu'ils ressortent au bout de deux mois, ils sont sentis d'être libérés. Avant, j'ai envie de dire, ils prenaient plus la peine de faire ça discrètement, maintenant... Ils n'en ont rien à faire, donc c'est des choses mais vraiment insistantes. Hein.
Aujourd'hui, les auteurs de harcèlement peuvent être sanctionnés pour outrage sexiste. Les amendes prévues pour cette infraction vont de 90 à 1 500 euros.
Bonjour Louise Delavier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, porte-parole de l'association En Avant Toutes. Vous vous attendiez effectivement à rencontrer ce type de situation en cette période de déconfinement. C'est quelque chose que vous aviez prévu?
Oui, c'est quelque chose que bien sûr nous déplorons, mais qui n'est absolument pas surprenant. Le harcèlement de rue, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas du tout de la drague, hein, c'est pas du tout quelque chose qui est agréable, qui est consenti. Le harcèlement de rue, c'est véritablement une prise de possession de l'espace public par un groupe de personnes, en l'occurrence les hommes. C'est une stratégie collective et inconsciente en fait de garder le pouvoir sur un espace. Et donc quand on se trouve dans un moment où il y a moins de gens dans les rues, où on est dans un moment qui est anxiogène, comme là le déconfinement où il y a toujours un petit peu le spectre de la maladie et en même temps on a envie d'être un peu dehors, c'est pas du tout surprenant que ces mécanismes de pouvoir reprennent et que dès lors les hommes se mettent à harceler de nouveau. Par ailleurs, on est face à des rues qui sont vides, face à des moments où il y a moins de personnes, où on peut moins trouver de l'aide, et du coup c'est un moment qui est très très angoissant pour toutes les femmes en ce moment.
Mais alors qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Alors, des choses qui peuvent être très bien, c'est de faire ça. Alors déjà, de savoir réagir quand il y a du harcèlement et également de pouvoir réagir quand on est témoin. Ça, ce sont deux choses qui sont très importantes. Bon, bien sûr, la première chose, ça serait que les hommes ne harcèlent pas, hein, ne puissent pas harceler, ça serait bien. Mais on peut déjà s'entraîner, en fait, à pouvoir interagir soit avec les victimes, soit en tant que témoin. Et ça, c'est quelque chose à notre association que nous proposons, puisque nous avons un programme de formation exprès qui s'appelle Stand Up et qui permet en fait de réagir précisément sur ces deux publics.
C'est-à-dire, racontez-nous.
Alors, l'idée, c'est vraiment de trouver des méthodes très simples pour pouvoir analyser les situations, savoir s'il s'agit de harcèlement ou pas, et ensuite trouver des manières d'agir sans se mettre en danger.
C'est-à-dire, expliquez-nous le Stand Up. Comment se passe la formation?
Alors, vous êtes dans une salle avec deux formatrices d'En Avant Toutes ou d'autres associations. Et ce que vous faites, c'est que vous avez un écran avec des situations. Et l'idée, c'est comment on va pouvoir réagir à cette situation. Est-ce que là, par exemple, je m'adresse directement à l'agresseur en lui disant « Arrêtez, monsieur, vous êtes en train de faire du harcèlement ». Parfois, ils ne le savent même pas. Parfois, ça vaut le coup de le dire. Ou alors, trouver des stratégies pour ne pas se mettre en danger. Donc, on va pouvoir peut-être distraire son attention. En tant que témoin, je peux lui demander l'heure, je peux renverser mon café à côté, je peux m'adresser à la victime en faisant semblant de la connaître afin qu'elle puisse avoir une porte de sortie. Je peux aussi prendre une vidéo avec mon téléphone pour pouvoir ensuite donner des preuves si jamais il y a besoin. Attention, si vous faites ça, toujours avec le consentement de la victime, c'est très important, et ne la mettez pas sur les réseaux sociaux, encore une fois, sans son accord. On peut aussi, il y a toute une sorte de stratégies à mettre en place qui sont très utiles à la fois pour les témoins et à la fois pour les victimes.
Est-ce que l'arsenal judiciaire, est-ce que le dispositif de sanction est suffisant actuellement?
Alors, il y a un dispositif de sanction, effectivement, qui existe, et heureusement qu'il existe. Après, sanctionner, c'est toujours quelque chose qui vient dans un temps 2, et nous, on s'occupe de ce qui vient dans le premier temps, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que ces phénomènes n'arrivent pas. Parce que même s'il y a une sanction, il y a quand même une femme qui a été harcelée à la base, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement traumatisant, et qui fait que là, actuellement, quand on est dans la rue, on regarde tout un peu le bout de nos chaussures, en essayant de pas écouter ce qui se passe dehors.
Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage, Louise Delavier, porte-parole de l'association En Avant Toutes.
C'est demain, Pierre, qu'Emmanuel Macron présentera son plan de relance pour le secteur automobile. L'Élysée veut donner le signal que tout le monde est mobilisé pour soutenir ce secteur stratégique.
Et on s'attend à des dizaines de milliers de postes supprimés avec la crise du Covid. C'est pour cela que le gouvernement va renforcer fortement les aides à l'achat, les primes à l'achat pour ces particuliers, aussi les entreprises. Le gouvernement qui compte également sur un grand plan batterie pour sauver des postes. Un plan batterie qui donc va être renforcé, Emmanuel Dutheil.
Oui, si vous étiez à l'écoute et vous l'étiez particulièrement, Pierre, vendredi matin de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il avait dit sur l'antenne d'Europe 1, il faut absolument que Renault y aille. Eh bien, qu'est-ce que va faire Renault? Comme par hasard, ils ont accepté de faire partie de cet Airbus de la batterie. Ils vont être actionnaires du projet. Alors, on ne connaît pas encore le montant de la participation. PSA et Total étaient déjà dans l'aventure côté français. Alors, ce plan est un vrai plan européen pour que l'Europe puisse être compétitive face aux Chinois qui fabriquent aujourd'hui quasiment toutes les batteries. C'est une question de souveraineté européenne, dit-on à Bercy. L'idée, c'est de créer une filière qui irait de la sécurisation des matières premières nécessaires à la fabrication de ces batteries au recyclage, en passant bien évidemment par la fabrication de ces batteries. Des milliers d'emplois pourraient être créés en France. Il y a déjà une usine test et plusieurs devraient naître dans les années à venir. Jusque-là, Renault ne voulait pas y aller parce qu'il ne voulait pas avoir les mêmes batteries et donc les mêmes fournisseurs que PSA. Mais là, ils n'ont pas eu le choix. Bruno Le Maire a été très clair en coulisses. Si Renault n'y participe pas, je ne signerai pas le prêt de 5 milliards d'euros. C'est rare d'avoir des leviers pour obtenir des choses. Cette fois, on compte bien s'en servir, disait-on à Bercy. Et c'est pour soutenir toute cette filière que Renault, mais PSA va être engagé à faire la même chose, que Renault et PSA vont être engagés à produire toutes leurs technologies d'avenir, et donc notamment leurs voitures électriques en France.
Merci Emmanuel Duteil.
Il est midi 49.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Gros plan sur les matchs de foot illégaux. Ils se multiplient. Et puis cette question, Mike Tyson va-t-il en remonter sur le ring? A tout de suite. Il est midi 52, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Vous le savez Pierre, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans l'espace public, suivant les règles du déconfinement. Et pourtant, ça n'a pas empêché 400 personnes d'assister hier après-midi à un match de foot.
Oui, ça s'est passé entre deux quartiers de Strasbourg, le Neuhof et Haute-Pierre. Yves, qui habite juste en face du stade de foot, raconte cette scène totalement surréaliste.
Ce que j'ai vu, un truc de fou, et des voitures partout, noir de monde. Il n'y avait strictement rien de respecté. Je trouvais ça hallucinant. Hallucinant. La plupart sans masque. Et puis c'était un match de foot, quoi. Puis ça hurlait, et puis il y avait de l'ambiance. Dans le contexte actuel, c'est incompréhensible. Avec tout ce qu'on vient de vivre, ça m'attriste parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients. Ils n'ont pas vu de près. Nous, on a vu mourir des gens en 3 jours, qui sont morts du coronavirus en 3 jours. Et là, on se fiche de tout comme si s'il n'y avait jamais rien eu, quoi. Tu te dis, mais mince, ils sont au-dessus de toutes les lois, quoi.
Et la police ?
Je les ai pas vus. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, là ? Il y avait tellement de monde. C'est une cocotte minute qui risquait de péter. Alors, ils ont préféré, je pense, ne pas mettre le feu aux poudres. J'espère que ça restera une belle fête pour tous ceux qui étaient là, que ça ne soit pas endeuillé ou qu'il n'y ait personne qui, dans les 15 jours, hein, ne soit contaminé.
Voilà, Yves qui a assisté à cette scène surréaliste avec notre correspondant Arthur M. Bachet.
Il a 54 ans. Enfin, bientôt, à la fin de l'été. Mike Tyson veut, paraît-il, Pierre, revenir sur le ring.
Ben oui, il y croit très très fort, Cyril de la Morinerie. Mais nous, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que c'est vraiment réalisable?
En tout cas, Mike Tyson l'assure, il est dans la meilleure forme de sa vie. Écoutez-le à l'entraînement, ça déménage. Les coups partent vite et fort. À part sa barbe poivre et sel, Mike Tyson semble aussi féroce qu'il y a 15 ans, date de son dernier combat. Des millions de fans qui ont vu ses vidéos se réjouissent de ce retour, mais les spécialistes eux, sont beaucoup plus perplexes. C'est le cas de Charles Bietri, ancien directeur des sports de Canal+. Le journaliste connaît bien le multiple champion des lourds et pour lui, un vrai combat serait une plaisanterie.
Ça me paraît tellement insensé, il a 54 ans, il n'a pas mené une vie qui lui permettent d'avoir une condition physique pour faire de la boxe. Et faire de la boxe chez les poids lourds, c'est se mettre en danger mortel. Et il est très présentable physiquement maintenant, il sera beau pendant quelques minutes, et je serais content de le voir en exhibition, mais je serais effondré de le voir faire un vrai match.
Pour un match exhibition, l'adversaire est tout trouvé. Evander Holyfield, en 97, Mike Tyson lui avait arraché un bout d'oreille avec les dents avant d'être suspendu un an.
Pas taper, Cyril de la Morinerie.
C'est une déferlante qui arrive en librairie, Pierre, après le confinement. Pour relancer les ventes, les éditeurs ont choisi de faire la part belle à leurs auteurs à succès qui devaient dévoiler leurs nouveautés à partir de la fin du mois de mars.
Bernard Minier a lancé le bal la semaine dernière avec La Vallée et ça va continuer cette semaine avec du très très lourd, des sorties attendues aussi bien par les lecteurs que par les libraires. Marion Calais.
Le titre n'est pas encore tout à fait intégré.
Mystère de la chambre 155, je crois, de Joël Dicker.
Mais cette énigme de la chambre 622, Sophie l'attend impatiemment après la disette du confinement.
On est content de voir des bouquins qui sortent, on est content de retourner dans les librairies. Et on se prépare pour les 3 prochains mois qui vont être beaux.
Joël Dicker donc, mais aussi Guillaume Musso, tous deux tirés à 400 000 exemplaires, ou encore John Le Carré. À partir de cette semaine, ce n'est pas seulement l'été qui se prépare, mais l'avenir de toute une filière qui se joue. Stanislas Rigaud est le responsable de la librairie Lamartine à Paris.
Je pense que pour les libraires, ces grands livres qui attirent beaucoup de monde et qui sont des grands livres de divertissement sont une chance. On va reconstituer un panel de nouveautés assez fortes dans différents domaines qui devraient devrait pouvoir satisfaire une grande curiosité et relancer effectivement un peu plus encore la librairie.
Une relance qui se fera sans Marc Lévy, exceptionnellement absent en ce printemps. Une première depuis 17 ans.
Marion Calais.
Merci Pierre, on se retrouve demain midi, évidemment, pour le Grand Journal.